Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Thierry, 51 ans, est renvoyé de son entreprise dans le cadre d'un plan de licenciement économique. Après 20 mois de chômage et de recherche d'emploi sans succès, il accepte un poste de vigile dans un supermarché. Ceci n'est pas la énième brève sur la question du chômage et de l'emploi dans un de vos quotidiens, mais le pitch, comme on dit en français, le résumé du film La loi du marché de Stéphane Brisé, qui est sorti en même temps qu'il était salué lors de sa projection à Cannes, notamment pour la prestation de son acteur principal, Vincent Lindon. Hasard du calendrier, hier, le conseil d'administration de Pôle emploi a approuvé la généralisation à l'ensemble du territoire d'un dispositif qui dissocie la mission d'accompagnement des chômeurs de celle du contrôle de leur recherche, par souci d'efficacité, et ce, pour permettre à ces agents de mieux accompagner les chômeurs. Pôle emploi vient ainsi de valider ce que beaucoup considèrent comme une sorte de flicage accentué des demandeurs d'emploi. Et puis par ailleurs, dans un rapport paru mardi, et c'est cela qui a bien sûr attiré notre attention pour l'émission d'aujourd'hui, l'Organisation internationale du travail révèle que 3 personnes sur 4 dans le monde ne bénéficient pas d'un emploi stable. Pour le dire autrement, seul un quart des travailleurs sont salariés avec un contrat à durée indéterminée et avec un emploi à plein temps. Les 3/4 restants sont en contrat à durée déterminée, exercent à temps partiel et sont leurs propres patrons ou encore travaillent au noir. Alors l'instabilité du travail conduirait-elle les précaires à devenir une sorte de nouveau prolétariat mondial? Et faut-il redéfinir au fond les classes aujourd'hui sociales en fonction de cette nouvelle donne? Comment évaluer les méthodes d'accompagnement des demandeurs d'emploi et tandis que leur nombre augmente malgré la reprise de la croissance? Toutes ces questions dès la première partie avec vous. Vous avez du pain sur la planche, Julien Damon, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, professeur associé au master d'urbanisme de Sciences Po et fondateur de la société de conseil Éclair. C'est pas de la pâtisserie?
Non, c'est du... Comment pourrait-on dire du croissant sur la planche, parce que j'ai du pain sur la planche. Ouais. Ah oui, éclair au chocolat, ça que vous pensiez.
Alors, deux méthodes, il en sera question aussi en seconde partie, et de management notamment, puisque vous serez rejoint, Julien Damon, par la sociologue Marianne Dujarrier, qui fait paraître à la découverte un livre intitulé « Le management désincarné, enquête sur les nouveaux cadres du travail ». Comment le management conditionne et encadre aujourd'hui les travailleurs? Pour quelles raisons les méthodes de management ne conviennent-elles ni à ceux qui les emploient, mais surtout, on le voit dans le livre, ni à ceux qui les façonnent? Et puis la résistance passive à la Bartleby, héros de Melville, qui préférerait ne pas, est-elle en passe de s'inscrire durablement dans notre rapport au travail? Julien Damon, la première question, celle qui concerne tout de suite l'actualité de ce contrôle des chômeurs, vous appelleriez ça, comme les détracteurs le font pour vous, cela dit, un flicage supplémentaire, ou faut-il croire au fond à la mission d'allègement de la tâche pour les conseillers de Pôle emploi qui n'auront plus ce contrôle-là à faire dans leur mission, Julien Damon?
Je crois qu'il ne faut absolument pas considérer cela comme du flicage supplémentaire indu, scandaleux, bureaucratique, tout ce que l'on veut. C'est une des missions de tout organisme de protection sociale que de gérer à bon droit.
Parlez bien dans votre micro, parce que
Je recommence. Non, je plaisante. Voilà. Je remets bien mon micro. Vous savez, vous me fliquez pour que je puisse bien parler dans le micro. Vous contrôlez. Parfait. Mais c'est dans votre fonction intégrale, alors que dans votre question et dans la réforme en cours, c'est vrai qu'il y a une transformation à Pôle emploi. Ouais. C'est qu'une partie des employés de Pôle emploi, une partie des agents de Pôle emploi vont être spécialisés sur ces fonctions de contrôle. Mais en gros, rien de neuf sous le soleil. Dans les organismes de protection sociale, les caisses de sécurité sociale, les caisses d'allocation familiale en particulier, vous avez des corps de contrôle, c'est-à-dire des agents spécialisés qui vont regarder, avec naturellement des règles pour ne pas être trop intrusif, trop embêtant, trop flic, vos activités correspondent et votre situation correspondent aux droits que l'on vous verse. C'est absolument fondamental que de gérer normalement les fonds publics. Donc oui, il y a quelques cris d'orfraie pour dire « Ah, c'est scandaleux !» et puis...
Mais parce qu'il y a trop d'abus, on note quoi? On note que...
Alors, il y a deux choses. Un, il y a un adage juridique qui est « la fraude corrompt tout ». Quel que soit le niveau de la fraude est problématique. Deuxième chose, est-ce qu'il y en a trop? La seule chose, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'est l'ampleur de la fraude. En tout cas, elle existe et un temps, elle a pu être déniée. Il faut fondamentalement lutter frontalement contre ce phénomène. Un chiffre, plusieurs, tiens, comme ça, c'est une petite bardée de chiffres, comme dans une boulangerie, là. Alors, vous avez, en gros, plus de 5 millions de personnes qui sont des demandeurs d'emploi. Vous avez plus de 50 000 personnes qui travaillent à Pôle emploi. Donc, vous avez une personne à Pôle emploi qui travaille pour 1000 chômeurs. Sur ces 55 000 personnes qui travaillent à Pôle emploi, 200 seulement vont, suite à cette expérience, être affectées à un groupe spécialisé ou des groupes spécialisés. spécialisés, puisque ceci va être réparti sur le territoire, pour s'occuper de traiter de cas problématiques, sans d'ailleurs fondamentalement les cibler. Hein. Vous allez avoir des contrôles qui sont d'ailleurs faits sur du data mining, ça veut dire plonger dans la mine pour traiter les données. Donc c'est les ordinateurs d'abord qui contrôlent, et puis ils vont aller regarder sur les pièces dont ils disposent, puis par appel téléphonique, voire par contact en face à face, si les gens recherchent effectivement un emploi, s'il n'y a pas aussi de la truanderie, parce qu'il n'y a pas que des gentils, que ce soit chez les cadres supérieurs, chez les journalistes ou parmi les chômeurs. Donc c'est utile. Exactement. Donc il n'y a pas fondamentalement des méchants ou des gentils patrons, méchants ou gentils chômeurs. Donc, je crois que c'est une tempête, non pas dans un verre d'eau, mais dans un petit dé à coudre. Il est très bien que Pôle emploi ait pris cette décision, dont d'ailleurs il faut dire qu'elle est, sans être saluée et applaudie, mais acceptée par l'ensemble des organisations syndicales, c'est-à-dire qu'aucune ne s'est prononcée contre, même si certaines ont pu s'abstenir. Ouais. Et puis, les chômeurs interrogés peuvent dire « bah oui, moi je suis plutôt content qu'on se préoccupe de ma situation ». Alors évidemment, pour les fraudeurs, c'est pas bien.
Alors, cela dit, cette mesure, on pourrait dire qu'elle déplace, et si on la regarde attentivement, elle déplace le regard sur quelque chose qui est, au fond, quand même bien plus préoccupant, peut-être même que la question de la fraude. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Travail, François Rebsamen, puisqu'il affirme que l'objectif de ce nouveau dispositif de contrôle des chômeurs, par Pôle emploi, n'est pas pour modifier les chiffres du chômage, mais pour mieux accompagner les chômeurs de longue durée. Et cette question de chômage de longue durée, j'ai le sentiment qu'on n'en est pas sorti et qu'elle est réellement, en fait, un des énormes problèmes de notre pays aujourd'hui.
Alors, en effet, pour faire un jeu de mots matinal, c'est une question de longue durée que ce chômage de longue durée, parce que c'est un sujet ancien et il est encore devant nous. Alors le monde du chômage est un monde hétérogène, comme tous les mondes. Ouais. Vous avez une partie des chômeurs qui le sont que de manière frictionnelle, qui passent soit de temps en temps, soit une seule fois dans leur vie, et tant mieux, n'en dépendent plus. Mais vous avez des gens qui, en effet, sont là depuis 1, 2, 3, 4 ans dans le dispositif de prise en charge, que ce soit pour l'assurance ou pour ensuite.
Et d'entendu qu'ils n'en sortiront jamais, pour certains.
Il ne faut qu'un défaitisme et fatalisme. Ouais. Il y a toujours des gens qui s'en sortent, mais plus on est longtemps dans le chômage, plus il est difficile de s'en sortir. Ouais. C'est assez évident. Sur ces dispositifs de contrôle, que ce soit pour les diverses allocations et prestations sociales des caisses de sécurité sociale ou pour l'assurance chômage, un des objectifs, et notamment un des objectifs humains des contrôleurs, c'est pas d'aller fliquer, ennuyer les chômeurs. C'est d'aller regarder s'il n'y a pas des truands, parce qu'il y en a, et d'aller regarder si, parce que certains, notamment en matière d'assurance chômage, ne renvoient pas les pièces ou alors ne sont pas en effet en recherche active d'emploi parce qu'ils sont découragés. Et vous avez justement de ces contrôleurs dans ces expériences qui, avant qu'elles soient généralisées, cette expérience disent, nous ce qu'on a pu trouver, c'est des gens découragés et c'est pas qu'ils sont là pour les pousser, mais ce nouveau contact avec Pôle emploi peut les aider à reprendre un tout petit peu pied.
On apprenait le mois dernier que la croissance en France repartait à la hausse, mais pourtant que le chômage, lui, ne cesse d'augmenter. Comment se fait-il que la reprise économique ne se traduise pas dans les chiffres de l'emploi, Julien Damon?
Je pense que le sujet plus général, qui est celui de notre conversation d'ailleurs ce matin, c'est sur la nature de l'emploi, la nature du travail. Vous pouvez avoir une croissance même très vive tirée par des métiers à la Silicon Valley, et en même temps, des gens qui restent sur le carreau car le monde s'est transformé. Et le problème de l'emploi, le problème du chômage, ce sont les gens non qualifiés. Le chômage des très qualifiés, des Bac plus 3, Bac plus 5, sans qu'ils soient inexistants, est quelque chose d'extrêmement restreint. Donc, encore une fois, une croissance très vive tirée par les technologies de l'information et de la communication, par les codeurs, par exemple. Mais il faut savoir coder. Vous avez énormément de gens aujourd'hui qui sont un peu sur le carreau, non pas tant dans les statistiques de Pôle emploi, mais parce qu'ils n'ont pas les compétences, les capacités pour s'inscrire sur un marché de l'emploi ultra compétitif.
Donc ça révèle quoi? Ça révèle un problème de formation dans notre pays?
Oui, et même plus largement encore au regard de votre introduction, c'est des transformations profondes, même des classes sociales. Vous avez une partie des métiers qui aujourd'hui sont balayés par la révolution technologique. Et alors que cette révolution technologique est à haute intensité capitalistique, technologique comme son nom l'indique, et permettant de la croissance et du turbo-capitalisme, vous avez des laissés pour compte de la croissance qui sont les gens inaptes n'est pas le terme, mais c'est un terme idiot, je trouve, mais qui, en tout état de cause, n'ont pas aujourd'hui la possibilité de bénéficier d'une reprise.
Alors, vous avez justement vu publier dans Atlantico un article pour signaler, notamment à l'occasion du 1er mai, qui reste tout de même, vous remarquerez, la fête du travail. On ne parle plus de travail aujourd'hui, on parle d'emploi. Alors, ce mot travail est resté tout de même dans le vocabulaire, au moins des célébrations. Et pourquoi d'ailleurs ne parle-t-on de moins en moins de travail et parle-t-on d'emploi ?
Parce que je pense que, alors c'est pas un sujet international, c'est un sujet français, comme les deux noms l'indiquent. Nous nous singularisons dans le monde riche en tout cas, parce que notre problème n'est pas fondamentalement le travail. Tout le monde aspire à travailler, tout le monde d'ailleurs travaille à sa manière, dans les activités domestiques, plus ou moins au noir, plus ou moins informellement et plus ou moins formellement. Et de l'autre côté, notre sujet, c'est la quête de l'emploi, trouver de la rémunération et les protections et garanties qui sont attachées à ces protections. Si nous nous singularisons, c'est parce que depuis 30 ans, dans la zone OCDE, nous sommes le seul pays qui n'a jamais vu son taux de chômage, qui ne mesure pas le travail, mais qui mesure justement l'emploi, son taux de chômage qui n'a jamais été inférieur à 7,5%. Ce qui est ultra problématique pour les gens concernés, c'est ceci est le premier problème, mais également pour les comptes sociaux dans un système de protection sociale qui repose sur l'emploi.
Mais alors, du coup, cette fête des travailleurs qui généralement rejoue la question, au fond, voilà, des ouvriers, des travailleurs, du salariat contre le patronat, est-ce qu'elle est toujours... Alors, je connais un peu la réponse quand je vous ai lu, mais pourquoi ne vous paraît-elle plus valide ?
Ah, bon, c'est une fête qui date d'événements américains.
Pas la fête, après tout, mais son sens.
Je crois que ce que l'on célèbre
contre patronat.
Parce que le problème majeur, de mon petit point de vue, c'est la transformation du salariat, justement. Le salariat, pour les marxistes, c'est quelque chose d'horrible. C'est la suggestion, c'est l'aliénation. Pour les classes moyennes des 30 glorieuses en France ou aux États-Unis, ça n'est absolument pas l'aliénation, c'est la réalisation, c'est l'arrivée à un niveau de vie de protection et de garantie en termes de sécurité sociale, par exemple, que le monde aujourd'hui ne peut plus garantir. Et je crois que l'effritement du salariat, souhaité ou redouté, souhaité par beaucoup d'auto-entrepreneurs qui ne sont pas contraints à l'auto-entrepreneuriat, par énormément de jeunes qui n'aspirent absolument pas à travailler dans des grandes entreprises, c'est ça les transformations radicales du travail. Vous avez d'un côté un monde enjoué qui peut mettre de côté le salariat et un monde terrible, notamment dans les fichiers de Pôle emploi, de gens qui n'aspirent qu'à une chose, c'est à trouver un emploi salarié, ceci alors que celui-ci s'effrite fondamentalement.
Quitte à accepter n'importe quoi.
Alors, c'est l'exemple que vous citiez dans ce film auquel vous faisiez référence. On va voir l'exemple.
On va écouter l'extrait.
J'en ai chié autant que toi. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu. Et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 euros par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? C'est dans 9 mois, c'est là.
Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise?
Ah oui, je pense, oui.
Bah, vous pensez, vous êtes sûr?
Voilà, vous pensez, vous êtes sûr, cette idée qu'il va accepter, pour avoir du travail, d'avoir un boulot beaucoup moins, en tout cas pas qualifié comme celui qu'il avait auparavant. C'est-à-dire qu'on accepte, en fait, on accepte quoi? Est-ce que... Ou on renonce plutôt à quelque chose.
On peut renoncer à la liberté ou à l'imagination d'un monde où on n'aurait pas besoin d'argent, mais assez fondamentalement, lorsque l'on cherche un emploi, comme ça a été dit là, on cherche un boulot, on cherche une rémunération. Et plus on est loin dans le chômage, bien sûr, plus d'ailleurs juridiquement on est, pas astreint, mais en tout cas conduit, poussé à accepter des emplois moins bien rémunérés. Donc oui, la recherche de l'emploi, c'est la recherche d'une stabilité et d'un peu de pognon et de boulot. Mais ça n'est pas vrai de tout le monde. On va parler des cadres, on peut parler des jeunes diplômés. Ils s'en fichent, mais ils ont la chance de pouvoir s'en ficher.
Oui, ça c'est oui. Alors selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, j'y faisais référence tout à l'heure, paru mardi, les 3/4 des travailleurs du monde sont précaires. Est-ce que ça, c'est une donnée qu'il faut et qui change considérablement la manière de voir le monde et de la manière dont il tourne, surtout. Julien Damon.
Si je peux me permettre une petite réserve sur ce que vous avez pu donner comme transcription de ce rapport, vous avez dit, voilà, ils sont précaires, les 3/4 des travailleurs dans le monde, ils sont en contrat à durée déterminée, etc. Mais ça, c'est une vision rien française. C'est qu'ils sont, ils ont pas de contrat du tout. Ils ont aucune protection sociale, ils ont aucune garantie quant à leur droit du travail, accident, rémunération, etc., etc. Donc vous avez 75% de la population exerçant une activité professionnelle rémunérée dans le monde, dans un cadre strictement informel. Vous avez prononcé le terme, c'est du travail au noir. Voilà, alors, c'est pas du travail au noir contre lequel les pays doivent lutter, on va pas les punir. Ce qu'il faut, c'est formaliser le travail. Alors, vous avez une aspiration, c'est vrai, au salariat dans le monde entier, quand vous avez sa décrépitude dans le monde riche. Vous avez une aspiration des gens aux États-Unis ou en France, classe moyenne supérieure, à se briser les liens du salariat, quand dans le monde entier, ce que cherchent à faire les institutions internationales et les gens, c'est à bénéficier des garanties, protection et rémunération attachées au salariat. Mais ça, c'est simple, vous avez une sorte de démoyennisation du monde, et donc des très riches qui ont des activités formidables, des très pauvres quand même qui doivent assurer les services pour les très riches, et une classe moyenne qui s'effrite. À l'inverse, dans le monde, vous avez un accès progressif au salariat. C'est-à-dire que si l'OIT, avec des chiffres de plus en plus sensés, nous dit on a trois quarts de la population mondiale exerçant une activité professionnelle qui est dans le secteur informel, ça paraît énorme, et ça l'est, mais c'est un progrès. C'est un progrès par rapport à un monde qui, il y a peut-être 20 ans, était à 15 ou 20% de travail formel.
Vous ne substitueriez pas le mot de précariat, celui de prolétariat, comme le font certains sociologues ?
Non, alors précariat, c'est un terme qu'on a pu avancer avec...
Lumpen précariat contre lumpen prolétariat.
C'est pas la même chose, c'est le lumpen prolétariat, c'est l'armée de réserve des capitalistes et des patrons. Ce sont ceux que l'on peut acheter pour briser les grèves, mais tout ceci n'existe plus. Enfin, avec un monde qui est toujours, en France, à composer à moitié quand même pour la population active d'employés et d'ouvriers, mais ce ne sont pas exactement les mêmes. Le précariat, c'est l'idée selon laquelle les pouvoirs publics organisent la précarité. C'est pas faux du tout, je pense juste que... il n'y a pas une organisation du précariat comme le prolétariat, lui, a pu s'organiser et être soutenu, c'est vrai.
À 8h15, la deuxième partie de l'émission, on nous rejoindra Marianne Dujarrier qui publie justement son livre sur le management désincarné, à la découverte. Deuxième partie qui sera introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc. La valeur travail est plébiscitée en France. Nos compatriotes sont ceux qui, dans toute l'Europe, apprécient le plus leur job selon les sondages. Et en même temps, on nous parle de souffrance au travail. Nombre de nos compatriotes sont astreints au respect de normes contraignantes afin de les contrôler à distance. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ?
Et ce sera la réponse dans un quart d'heure avec vous, Julien Damon et Marianne Dujarrier.